La déesse aux embouches. Cycle de performance radiophonique conçu avec les commissaires Raphaël Brunel et Anne-Lou Vicent. Liv Schulman, mais grâce.
Dynasty. Dynasty. Si je regarde en profondeur, en fermant les yeux, je peux voir un homme sans domicile fixe au fond de la salle, avec une tasse de café à la main, qui me regarde. Je devrais lui dire que je le vois. Lui et son corps, tout fait en fimon. Oh, c'est érotique. Fimon plus qu'une plasticine. Un concept, plus qu'un concept, un affect, plus qu'un affect, une institution. Je sais maintenant que c'est Steve qui est là comme un supporteur, parce que je suis insécure. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça est censé être très drôle, vous allez rire. Voilà une image ésotérique, un récepteur, quelqu'un au moins à qui adresser la parole. Parce que, qu'est-ce que l'ésotérisme si ce n'est pas la même chose que l'érotisme? Des connaissances qui viennent de l'intérieur. Et qu'est-ce que je voulais dire par érotisme en fait? Je voulais dire ce monde composé de fantasmes qui rend la vie plus supportable, qui aide à entretenir les relations sociales et les économies libidinales. Et qu'est-ce que l'économie libidinale? L'économie libidinale, c'est juste notre économie, quoi. Ou des formes d'investissement de notre énergie psychique remplacent la satisfaction des pulsions sexuelles et se réinvestissent dans le capitalisme imaginaire. Alors, exactement comme les actions de la bourse, la spéculation financière, le marché immobilier, la téléphonie mobile. Vous allez me dire que c'est une vision injuste du capitalisme, de la psychologie et de la téléphonie mobile, en fait. Que nous n'avons pas toutes les mêmes pulsions, que nous ne voulons pas toutes investir dans la même forme de libido. Eh bien, moi je vais vous dire que c'est pour cela qu'une économie de marché existe. Que c'est pas moi qui l'ai inventée. Et qu'heureusement, je la contrôle pas. Alors, là vous allez voir. Tout ça se passe dans une nuit, dans les années 70. Mais dans une seule nuit. Dans les années 70, un groupe d'économistes s'est réuni pour effectuer une étude sur les comportements sexuels des populations européennes. Oh. Dans ce but, ils vont dans un Starbucks de l'université qui est ouvert jour et nuit. Les économistes regardent le fantasme sexuel des populations européennes et se rendent compte que ces fantasmes font n'importe quoi. Ils sont extrêmes, ils changent tout le temps, ils n'ont pas de thème, ils sont hors sujet, ils sont colorés, folkloriques, ils sont trop abjects, ils ne sont pas humains, ils sont ridicules, ils impliquent l'enfance, les animaux, les insectes, les œufs. Souvent, ça donne l'impression qu'ils sont faits en chewing-gum. Ils sont très rigides, la plupart ne sont même pas nommables. Ils ne répondent pas aux règles basiques du langage, en fait. C'est juste des sensations, des affects amorphes, en fait. S'ils ne provoquent pas l'hilarité et la honte. Mais ces fantasmes-là participent activement d'une forme d'économie réelle en devenir dans les années 70. Ils sortent et rentrent de cordes des sirons. Ils mettent des bombes. Ils structurent des institutions universitaires et hospitalières. Ils sont un système d'élection, ils sont une sécurité sociale, un marché immobilier, une réforme du code du travail. Ils sont formés un plan du troc, ils sont créés une monnaie et ils sont aussi une radio et une télévision. Ils vont bien, ces fantasmes-là, en fait. Et c'est comme ça que les économistes se rendent compte que ces fantasmes, en fait, qui fonctionnent tellement bien, ces fantasmes ne sont autre chose qu'énergie renouvelable. À tous les niveaux. Voilà. Pure durabilité, en fait. Ces fantasmes sont du pétrole éternel. Vous savez, ce sont les outils qui incarnent notre économie de l'imagination et c'est comme ça que le monde tourne, à pur fantasme. Voilà, ça vous fait rire, non? Je ne vous vois pas rire. Les économistes, ils voient une solution aux pénuries d'énergie et se rendent compte que les fantasmes de tout le monde, que ces fantasmes-là, et écoutez-moi bien quand je dis que ces fantasmes-là devraient être privatisés, quoi. Voilà. Alors, comment on fait pour privatiser quelque chose qui appartient à tout le monde? Et ils s'accomplissent une campagne de dégradation de la propriété publique qui fonctionne comme ça. Au cours de la nuit, des graffitis se font sur les fantasmes. Des actes de violence maculent les graffitis la nuit. Et ensuite, de nouveaux graffitis se font sur les actes de violence. Et il y a clairement un climat d'agitation politique. L'industrie pharmaceutique décide d'investir et de participer et d'investir. Il investit dans l'étude et il achète la moitié fantasme à l'État. Et d'autres compagnies achètent l'autre moitié. Et les choses changent, elles se remettent dans l'ordre. Et le monde devient un théâtre clair, habité par des genres performatifs et des personnages actifs, toujours du même côté de la scène. L'année passe et en sortant du Starbucks, ce sont les années 90. Et les économistes savent maintenant que 99% des personnes, tous genres confondus, fantasment uniquement avec l'idée de faire un ménage à trois. Non, sans culpabilité. C'est-à-dire une économie classique de représentation familiale. C'est plus utile pour le libéralisme économique en réalité. À partir de ce moment-là, tous les fantasmes sexuels, tous, deviennent une affaire de famille. C'est plus utile pour le libéralisme économique en réalité. Enfin, au moins en France. À partir de ce moment-là, tous les fantasmes sexuels sont une affaire de famille. Et c'est comme ça que les choses se remettent dans l'ordre et les dynasties dans les dynasties. C'est drôle, non? Ça vous fait rire, non? Vous n'êtes pas en train de rire. Vous ne trouvez pas ça drôle? Ok, d'accord, je vais essayer autre chose alors. Le travail. Un groupe de Delivery Boys de la chaîne Pizza Domino se révolte et décide d'organiser un striptease collectif. Ils s'enlèvent leur uniforme en même temps qu'ils dansent. Et comme l'uniforme est un cliché érotique, un poste de travail reste vacant. Celui de l'uniforme. Si on considère l'uniforme, enfin l'érotisme comme un travail, ce qui est vrai. Alors, face au manque de clichés érotiques, un climat d'excitation frustré regagne la rue. Un groupe de personnes qui font du jogging dans la rue ramasse les uniformes et les met malgré la sueur et répartissent les pizzas à l'hôpital. Et un groupe d'infirmières en grève les reçoit. Et c'est comme ça que trois uniformes se superposent. Celui des sportifs, celui des pizzas domino et celui des infirmières. Ce qui amène une confusion érotique qui circule entre le travail et le dégoût. À l'hôpital, les malades se mettent à faire la manche. Ils se tirent la main. Les infirmières se mettent dans les lits et les sportifs trouvent un travail de docteur. Ils sont payés $1. Tous les objets de l'hôpital vibrent et s'enfoncent les uns dans les autres. Et les infirmières les utilisent pour se graver les dents avec des messages de grève. Les sportifs ont un travail et ils sont payés. Ils ont une paye de responsabilité. Ils gagnent $1. Et les malades les regardent avec un peu de compassion. Le nouveau docteur recommande les infirmières avec les dents défoncées d'aller voir un bon dentiste. Et comme tout le monde sait, comme tout le monde d'entre vous sait, comme tout le monde sait que dans les rêves, les dents, c'est le sexe, ça veut dire qu'il comprend le message disruptif, le message qui traverse les hiérarchies et qui constitue en lui-même l'énergie du pouvoir. Vous comprenez maintenant? L'énergie du pouvoir, j'ai dit. Ça vous fait rire? Ça, c'est drôle. Hein? Un groupe d'infirmières en grève tombe amoureuse d'un bébé. Pardon, une infirmière en grève, une infirmière du groupe tombe amoureuse d'un bébé. Un bébé, voilà. Qui est le neveu de sa cousine. Elle le regarde la nuit lorsque sa cousine travaille. La femme décide d'attendre que le bébé grandisse pour vivre leur amour. Et un jour, une dictature militaire tombe sur le pays de l'infirmière. Et le langage est réorganisé. Et les fantasmes et les perversions sont exclus du système des pensées. L'infirmière est frustrée. Elle sort dans la rue et elle mendie. En s'asseyant devant la porte de l'hôpital. Pourtant, la femme ne sait pas quel fantasme ce qu'elle ne peut pas nommer. Et la nuit, quand elle visite sa cousine, elle s'assoit à côté du bébé sans rien dire et elle le regarde. Elle se couche sur le petit tatami et elle fait une régression. Elle voyage en arrière dans un monde qui n'a pas de langage. Et il se touche la paume des mains avec le bébé. Et il s'échange des nounours. Et il partage leur inconscient, qui n'est autre chose qu'une émission de télé Montessori pour enfants qui maintenant a été interdite. Voilà. Ça, c'était drôle. C'est drôle, non? Genre drôle. Ha. Dans la caserne, deux policiers rêvent que deux policiers à cheval arrosent un jardin. Le lendemain, ils volent une moto noire. Ils portent des uniformes en lambeaux coupés longitudinalement. en verticale. Cela crée une petite fureur et il s'intègre à l'industrie de la mode. Gucci les appelle immédiatement pour qu'ils deviennent mannequins. Ils acceptent de devenir mannequins Gucci, mais refusent d'être payés en dollars. Ils veulent uniquement être payés en sac Gucci, collection 1997. Parce que qu'est-ce qu'une collection si ce n'est pas une mesure du désir des institutions? Les uniformes veulent être payés en uniforme, comme il est naturel, des policiers d'avenue mannequins veulent être payés en uniforme. De bureau reçoit les magazines de l'autre chez lui. Il a détourné son adresse. Ce sont des magazines de chasse, de vente de vêtements et de design. Et c'est en caressant les pages glossies qu'il vit son amour. Sinon, il n'ose rien dire. Le collègue est triste. Avec ses magazines manquants, il ne sait pas comment s'habiller, ni quel meuble acheter. Il se présente au bureau tout nu et il en a honte. Mais pour l'homme amoureux, sa honte et sa nudité, ça veut dire qu'il a gagné un poste de travail chez les désirs de l'homme fantasmé. Ça, c'était bien. Voilà, c'était drôle. Ok, bon d'accord. Maintenant, je vais vous parler de Dieu. Dieu, ça va être drôle, voilà, vous allez voir. L'offre et la demande, et Dieu. Donc, vous ne le savez pas, mais en réalité, tout ce qui existe dans ce monde, c'est à cause d'un flot d'offres qui crée de la demande. C'est pas à l'inverse, c'est comme ça. C'est pas parce qu'il y a de la demande qu'il y a des choses. C'est parce qu'on offre quelque chose que la chose est bonne. Aussi longtemps qu'il y aurait une offre, il y aurait une demande. Pas le contraire. Vous comprenez ça, non? Tout le monde comprend? Tout le monde est d'accord? J'ai dit, tout le monde est d'accord? Je veux savoir si vous êtes d'accord. Parce que... Tout le monde est d'accord? Ok. Je sais par exemple... Que si on offre de douleur, il y a une demande de douleur. Que si on offre de tristesse, dépression, manie, perdition et folie, c'est parce qu'il y a une demande de tristesse, dépression, manie, perdition et folie. Toutes les choses existantes dans ce monde sont un flot d'offres qui créent leur tour parallèle, un flot de demandes, toujours assoiffé. C'est ça, le commerce. Et la positivité, bien sûr. Ça n'a pas l'air... Mais moi, je suis une personne très positive. Je vis dans un monde plein d'offres. J'ai énormément de chance. Je passe un véritable bon moment là. Je suis dans une fiesta de positivité. Un moment où toutes les choses qui existent double leur existence par le fait qu'elles existent dans la réalité et dans l'offre et qu'elles existent dans le désir de la demande. Et comme maintenant je crois en Dieu parce qu'il y a une offre de Dieu, et je veux vous dire, qu'est-ce que c'est que Dieu? Parce que je suis venue pour ça en fait. Dieu, c'est du pur désir. Et dans cette orgie de positivité, une infirmière m'a entendue. Elle a enfoncé l'aiguille dans l'œil d'un patient. Et le patient a dû la poursuivre en justice, ainsi que l'hôpital, pour des pratiques scandaleuses. Elle a embauché un groupe d'avocats qui traînaient dans le couloir de l'hôpital, comme des sportifs à la recherche d'un emploi, avec leurs vêtements en lambeaux coupés, longitudinalement. Et maintenant, il y avait du travail. Et s'il y avait du travail, il y avait du bureau, des photocopieuses, des secrétaires. Moi-même, j'avais un travail. Je me suis assise à la porte de l'hôpital en grève et je me suis mise à mendier, comme ça. Et je demandais, je mendiais, et la mendicité est devenue un travail. Parce que le manque et la dépense publique, c'est aussi de la positivité. Donc l'offre étant une manifestation du désir, qui sont des manifestations de Dieu. Et j'ai tellement mendié, que j'ai grandi dans mon domaine, qui était celui du manque. Je me suis répandue. J'ai ouvert un bureau à l'intérieur de moi-même. J'ai embauché des travailleuses et des travailleurs. J'ai mis des petits lits pour que mes employés puissent dormir la sieste, soucieuse de leur bien-être. Et au bureau, je veux dire à mon bureau intérieur, il y a eu un peu de sexe par erreur. Et c'est normal. C'est normal. Le sexe au travail, c'est normal. Il ne faut pas se scandaliser. Et quelqu'un est tombé dans la bouche de quelqu'un d'autre. Et avec le sexe, de nouvelles nécessités sont arrivées. Et un nouveau marché a pris les dessus. Et tout cela est arrivé. Pourquoi? Parce qu'en arrière-plan, toute offre était une opportunité pour le commerce. Et tout le monde sait que le sexe, c'est du pur commerce. Tout ça n'était pas vrai pour le capitalisme, en fait, qui était critique et léthargique et toujours en colère contre nous et régulait la qualité des choses, bon ou mauvais, officiel ou non officiel. Mais moi, et les infirmières, et les sportifs, toutes les choses existantes trouvaient leur place dans un érotisme interconnecté qui les forçait à avoir une voix, une forme d'animisme pour les objets et une voix collective pour les masses. Et un trafiquant de drogue m'a entendu et il a vendu le résidu de la cocaïne qu'il était en train de préparer. Et ce qui était une erreur au début est devenu une opportunité commerciale pour toutes les capacités. Pour les classes dominantes, la cocaïne. Et pour les autres, les crack. Et parfois, ça peut être à l'inverse. Hein. Ça peut être crack pour les classes dominantes, en recherche de nouvelles aventures, et de l'industrie pharmaceutique pour les autres, et la poudre de plâtre de la télévision et du pain dur pour toutes les classes moyennes. Merci beaucoup.
La déesse aux embouches. Cycle de performance radiophonique conçu avec les commissaires Raphaël Brunel et Anne-Lou Vicente. Dans le cadre de Viva Villa, le festival des résidences d'artistes de la Casa de Velázquez, la Villa Cujoyama, la Villa Albertine et la Villa Médicis. En direct et en public le 8 novembre 2024, depuis le Centre Wallonie-Bruxelles, Paris.